Il est 19h, allez, presque 22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Quand Emmanuel Macron s'adresse au maire, comme il l'a fait cet après-midi, au fond, il n'est pas impossible qu'il s'adresse aussi à lui-même, ou à ses troupes en tout cas, à 4 mois des élections municipales. La République En Marche, ça n'a échappé à personne, n'a pas d'ancrage local et le cherche avant cette échéance. Localement, le parti n'existe pas, le casting est donc parfois difficile. Trouver des candidats sous la bannière En Marche n'est pas chose aisée. Les tentatives dans les grandes villes, on y viendra forcément, n'ont pas encore trouvé leur élan. On parlera évidemment de Paris. Est-ce que Benjamin Griveaux est une erreur de casting ou pas. On parlera de Bordeaux, si vous le voulez, de Toulouse, de Lyon ou d'ailleurs. Il faut s'implanter, en tout cas, il faut aussi renouveler les têtes, créer des alliances et pourtant partir sous la bannière de La République En Marche ne semble pas séduire comme ça avait été le cas, par exemple, avant les élections législatives post-présidentielles. La presse se fait même l'écho et on y viendra de candidats qui retirent leur bannière. Alors, est-ce que la marque La République En Marche a perdu de son attrait? À quoi sera jugée une victoire au municipal? Faut-il s'accrocher aux grandes villes ou jouer la multiplication des élus dans les conseils municipaux? La République En Marche face au municipal, on y va et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
François, c'est vous le premier. Bienvenue François et bonsoir.
Ouais, bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Et merci pour vos émissions.
Allez-y François.
Moi, j'habite à Poitiers et il y a ça va illustrer ce que vous venez de dire. Il y a un candidat LREM qui est déclaré depuis quelques mois qui va faire face au maire sortant qui est un socialiste. Et ce candidat LREM, il est assez actif sur les réseaux sociaux, sur le terrain. Il a des thématiques d'écologie, il veut être le premier maire écologiste de Poitiers, faire de la participation citoyenne, tout ça. Par contre, il y a un truc qu'on ne voit pas du tout dans son discours et sur ses infographies, sur ses affiches de campagne, sur ses flyers, c'est le logo LREM, en fait. Les couleurs sont plutôt des couleurs vert, bleu, écologie, tout ça, quelque chose de très moderne, mais il n'y a absolument pas l'étiquette, entre guillemets, LREM dans toute sa campagne, lorsque vous voyez même sa permanence de campagne. Mmh. Alors, moi, ça m'interpelle un peu, je me dis, est-ce que c'est pas vendeur pour lui de dire qu'il est de La République En Marche? Et qu'est-ce qu'il en est à l'échelle nationale? Vous avez un peu répondu à ma question en introduction. Est-ce que le climat de contestation sociale actuellement fait que pour eux, c'est pas du tout vendeur de mettre l'étiquette LREM? Et l'autre question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un peu malhonnête vis-à-vis des électeurs? Enfin, moi, j'ai ma réponse, mais parce que à un moment donné, ils vont élire des sénateurs à La République En Marche. Ils sont financés et je pense que sa campagne, elle coûte cher parce qu'il est très, très agressif sur les réseaux sociaux et en présentiel. Ils sont financés par La République En Marche. À partir du moment, il faut le dire, vont appliquer le programme de La République En Marche.
Merci pour cette question, François. Merci pour cette entrée en matière, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de votre question, et c'est tant mieux pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Stéphane Zumsteigela, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département politique et opinion à l'Institut Ipsos. Bonsoir à vous, Pascal Perrineau, politologue, professeur à Sciences Po. Vous venez d'écrire, ça sort jeudi, donc c'est vraiment tout chaud et tout neuf. Le grand écart, chronique d'une démocratie fragmentée, s'est publié aux éditions Plon. Et Karine Bécard est là avec nous de France Inter.
Bonsoir.
Merci à tous les trois. Qu'est-ce qu'on peut répondre l'un après l'autre, Pascal Perrineau, à François, qui visiblement a été assez finaud dans sa manière de voir ses candidats se déclarer chez lui. Visiblement, c'est pas un cas à part, en fait. J'ai la bannière, mais je la ramène pas trop, en fait.
François, en effet, de Poitiers, décrit tout à fait un processus qui dépasse très nettement la seule ville de Poitiers. Mmh. Et qui dépasse très nettement aussi La République En Marche. Moi, je suis frappé de voir comment, dans de nombreuses villes et communes du territoire, au fond, il y a une crise des étiquettes, il y a une crise des appartenances. On avance plus ou moins masqué. C'est le cas pour certains socialistes, c'est le cas pour certains maires de droite, parfois pour de bonnes raisons, puisque les listes qui sont derrière eux sont des listes extrêmement composites. Par exemple, vous avez certains maires de gauche qui vont prendre des conseillers municipaux, certes un peu à gauche, mais aussi dans La République En Marche, et puis on ira jusqu'au centre droit. Vous avez des maires LR qui vont prendre un peu de République En Marche, et puis on va aller jusqu'au centre gauche. Donc, on voit bien comment, au fond, ces élections sont marquées par une relocalisation. Il y a une crise des grandes appartenances, des grandes idéologies, des grandes organisations. Et vous savez, en sciences politiques, on disait très souvent les élections locales sont devenues de plus en plus des élections nationales. C'est-à-dire que le système d'offre politique nationale avait, en effet, on le voyait bien dans les années 70, 80, 90, avait pénétré assez profondément les territoires locaux. Là, on a l'impression d'un coup d'arrêt à ce phénomène et d'une relocalisation, même si le cas de La République En Marche est frappant, parce qu'il faut dire La République En Marche est un mouvement d'en haut. Le mouvement d'en bas, il n'existe presque pas. Donc c'est assez presque normal qu'ils avancent très discrètement sur la pointe des pieds.
Stéphane Zumsteng, mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est pas vendeur d'avoir son étiquette République En Marche dans le dos? Au contraire, même, c'est un peu ce que suggérait aussi notre auditeur François, le climat fait qu'aujourd'hui, il fait pas bon porter cette étiquette-là? C'est aussi ça que ça veut dire?
Oui, il ne faut pas exagérer non plus, parce que, quelque part, quand vous êtes un inconnu et que vous vous présentez sous l'étiquette, enfin, que vous êtes membre, en tout cas, de La République En Marche, vous avez quand même intérêt, à un moment donné, à afficher un logo. Parce que si vous êtes un candidat inconnu, vous ferez un score de témoignage, alors même que vous êtes membre du parti présidentiel. Le fait de gommer son appartenance partisane, vous le disiez, vous aviez totalement raison, c'est un grand classique quand même des élections locales et des élections municipales. Ça fonctionne quand vous êtes un sortant, c'est-à-dire que vous êtes ultra connu. Tout le monde vous connaît, et puis vous avez un bilan à défendre. Et quelque part, qu'un logo républicain ou socialiste ou autre n'est pas forcément nécessaire. Quand vous êtes un nouveau candidat, quand vous êtes un nouveau venu dans la vie politique, si vous n'avez pas de logo, vous êtes condamné à faire un score extrêmement, extrêmement faible.
Karine.
En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution sur, je dirais, ces 5 derniers mois. On a vu un glissement quand même, parce que au départ, c'était un petit peu les marcheurs, va-t'en guerre, on allait planter des drapeaux, on allait mettre La République En Marche en grand et en gros sur toutes les plus belles villes de France et surtout les plus grosses. Et puis là, tout d'un coup, on marche sur la pointe des pieds et on commence à dire, on va voir ce qu'on va réussir à faire. L'étiquette, c'est pas très grave, et c'est exactement d'ailleurs ce qu'a dit à la toute fin de son discours ce soir Emmanuel Macron devant les maires, au congrès des maires, c'est les étiquettes, c'est plus grave du tout en fait, parce qu'il va falloir réussir à faire quelque chose de le plus massif possible, ça risque d'être extrêmement difficile pour La République En Marche. Et donc si on veut faire massif, c'est réussir à choper, à gagner un maximum de conseillers municipaux, et peu importe la liste sur laquelle ils vont se faire élire. Voilà tout ce que cela veut dire. Et j'aurais juste ajouté également, François dit à la fin, parce que voilà, on efface le logo, mais ils vont appliquer le programme de La République En Marche. Là, je mets juste quand même un gros bémol, c'est que le programme municipal de La République En Marche, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'existe pas, ça n'a pas été défini. Donc il n'y a plus de logo et il n'y a pas vraiment de programme.
Non, quand vous allez sur le site de La République En Marche, d'ailleurs c'est intéressant, il y a 10 principes vagues parmi lesquels la transparence, il n'y a aucun projet municipal en tant que tel.
Alors justement, tiens, ça n'a pas loupé, je suis contente que Cathy nous appelle, qui veut dire exactement l'inverse que vous venez de nous expliquer. Elle nous appelle de Bordeaux, on va très vite comprendre pourquoi. Bonsoir Cathy.
Bonsoir.
Allez-y.
Oui, tout à fait. Écoutez, je participe à la campagne électorale de Thomas Cazenave, qui se présente à Bordeaux, et je participe à des tractages, des rencontres avec les Bordelaises et les Bordelais, et je peux vous dire que l'on affiche totalement La République En Marche, et que ça ne pose aucun problème. Et quant au programme municipal, il est en fonction, bien entendu, du local, et de ce que l'on peut faire, proposer et changer. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème par rapport à La République En Marche dans ce cadre.
Voilà, vous ne cachez pas votre étiquette, il faut dire. Merci beaucoup pour votre intervention, Cathy. Pascal Perrineau, on est un peu dans un terrain très particulier à Bordeaux, on va dire ça comme
oui,
ça.
Oui, on est dans un terrain très particulier où il y a un affrontement entre le maire héritier d'Alain Juppé et, en effet, un candidat de La République En Marche qui a décidé, un peu dans le premier esprit dont nous parlions tout à l'heure, de monter à l'assaut de la citadelle juppéiste, et d'affronter, il faut le noter tout de même, d'affronter un parti qui est en coalition avec La République En Marche, puisque à Bordeaux, le MoDem, et c'est pas n'importe quoi, le MoDem soutient l'héritier d'Alain Juppé et non pas le candidat de La République En Marche. Donc on voit que tout ça est très très complexe.
C'est même plus subtil que ça, si je puis me permettre de rajouter. C'est non seulement le premier adjoint effectivement est MoDem, de Nicolas Florian, le maire sortant LR, mais on a même tous les partis normalement alliés à La République En Marche, Agir, le parti radical, qui se sont déjà prononcés pour soutenir ce maire-là. Donc on a Thomas Cazenave, le candidat à La République En Marche, qui est vraiment esselé. Et c'est vrai que les sondages dont on entend parler sont pas très bons en sa faveur.
Stéphane Zumsteg, est-ce que c'est important la très grande ville? Est-ce qu'il faudra, si on veut, au soir des... Alors, on va pas faire de projection, on est à 4 mois, mais au soir des résultats, est-ce qu'il faudra pouvoir au moins dire ça? Il faudra en avoir arraché une, en arracher deux
une très grande ville de la taille de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon et d'ailleurs.
La République En Marche est condamnée à ramener des trophées. Mm-hmm. Enfin, au premier rang desquels, évidemment, Paris. Enfin, si Benjamin Griveaux était élu maire de Paris, ce sera évidemment une grande victoire pour le parti, quel que soit le résultat dans les autres communes.
Vous rigolez, monsieur Perrineau, je ne comprends pas.
Oui, parce que je rappelle tout de même qu'il y a un peu plus de 35 000 communes.
Voilà. Non, mais il y a Paris, mais il y a d'autres villes aussi. Il y a Strasbourg, par exemple. Ça peut faire partie de ce que j'appelle ces trophées qui permettront finalement à La République En Marche de dire nous avons parfaitement géré cette séquence électorale et nous partions de rien, ce qui est faux, en fait, évidemment, parce qu'il y a quand même des villes, je pense à Lyon notamment, qui sont déjà dirigées par des gens issus du parti présidentiel, mais ça permettra à ce parti de dire finalement nous avons gagné ces élections, ou alors à minima nous en sortons bien. Parce que ce qui est aussi assez inédit cette année, c'est que la quasi-totalité des maires des grandes villes sont issus du Parti Socialiste ou des Républicains. Même si ces gens-là sont réélus, le Parti Socialiste ou les Républicains ne pourront pas dire que c'est une victoire nationale pour eux. Alors que La République En Marche est finalement la seule formation qui, si elle le réussit, pourrait sortir renforcée de ce scrutin.
Et Karine, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, puisque vous parliez des élus aussi, des élus municipaux. Qu'est-ce qu'on va compter à ce moment-là, en fait? Est-ce qu'on comptera le maire? Est-ce qu'on comptera le nombre de conseillers de Paris? Le nombre de membres de conseils municipaux? Qu'est-ce qu'on va compter à ce moment-là?
En fait, les calculs,
va les arranger, vous
les
me direz,
calculs, voilà, seront pas faits de la même façon là où on va situer. Oui. Typiquement, la journaliste que je suis, on va regarder effectivement les grosses villes, les points importants qui peuvent effectivement être empochés par La République En Marche. C'est assez simple. C'est vraiment le calcul le plus simple qui soit. C'est évidemment pas du tout le calcul que souhaite faire La République En Marche. Et de plus en plus, on entend dire, nous, sur le terrain, mais vous savez, nous n'avons que 2000 conseillers municipaux. Et notre objectif, vous allez voir, il n'est pas exceptionnel, c'est d'en avoir 10 000. Et vous rappeliez tout à l'heure, vous, monsieur Perrineau, il y a 35 000 communes en France. On imagine bien quand même que 10 000 conseillers municipaux, c'est extrêmement peu. Donc, ils sont sur un étiage extrêmement bas pour que s'ils arrivent à 15 ou 20 000, ils puissent dire, non mais vous rendez compte un peu cette victoire extraordinaire qu'on est en train d'empocher.
Est-ce qu'il met les mains dans le cambouis, Emmanuel Macron? On se souvient que pendant les européennes, c'était juste qu'il ne regardait pas chacune des personnes sur chaque liste et qu'il savait même qui était où. Est-ce qu'il met les mains dans le cambouis là pour ces municipales?
Certainement, parce que si vous voulez, le véritable patron de La République En Marche, je sais, il y a une commission nationale d'investiture qui fait son travail, mais enfin, on le voit, on sait que quand il y a une crise, des difficultés, tout remonte au patron, et que le patron, en l'occurrence, c'est le président de la République. On a affaire à une machine politique qui, là, est extrêmement centralisée autour de la figure du président de la République. C'est toujours un peu le cas avec le parti présidentiel.
Alors oui, on a effectivement un président qui intervient, qui est au courant de tout, qui s'interroge beaucoup, qui veut savoir ce qui se passe, mais il a des méthodes très différentes en fonction des villes. Vraiment, il n'a pas une seule méthode qui s'impose. Par exemple, typiquement Lyon, il est intervenu. Il a décidé, il a voulu que ça soit Gérard Collomb qui soit officiellement le candidat et pas Kimmelfeld. En revanche, par exemple, Marseille, il était perdu. Donc là, il a envoyé un missionnaire, un très proche à lui, quelqu'un en qui il a totalement confiance, Monsieur Borello, Jean-Marc Borello, pour effectivement voir pourrait être la meilleure solution. Organisation, méthode complètement différente à Paris. À Paris, il a compté sur la CNI parce que finalement, il était coincé entre deux proches, ou en tout cas deux députés, Benjamin Griveaux et Cédric Villani, en gros, qui l'apprécient.
Alors, on va y venir à Paris précisément. Je voudrais quand même qu'on aille refaire un aller-retour au standard où nous attend Frédéric, qui nous appelle de Pau. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, je me demandais quel serait le programme municipal, disons, de La République En Marche, dans la mesure où ils peuvent difficilement s'appuyer sur le bilan de M. Macron, et on comprend qu'il se planque un petit peu, que ce soit au niveau démocratique, avec le fonctionnement jupitérien, vertical, le mépris des corps intermédiaires, on ne voit pas ce qu'ils vont faire, disons, au niveau des municipalités avec ce programme. Au niveau écologique, c'est, la prolongation du glyphosate, la diminution des aides à la transition. Au niveau social, c'est l'augmentation de la pauvreté, l'augmentation des inégalités, et effectivement, l'argent donné, l'ISF et la flat tax aux plus riches, de façon totalement inutile. Donc, on comprend que La République En Marche se planque un petit peu, même si tous les partis le font. On voit mal sur quel programme ils vont pouvoir s'appuyer.
Merci pour cette intervention, Frédéric. Stéphane Zumsteg, ça revient à ce que disait Pascal Perrineau à l'instant. Oui, y a-t-il un programme? En fait, peut-on dire qu'il y a une ligne programmatique pour ces élections municipales à La République En Marche?
Non, pas pour l'instant, en tout cas. Et d'ailleurs, je pense que le défi est quasiment impossible pour La République En Marche dans le cadre de ces élections. D'autant plus que ce parti sera parfois présent sous ses propres couleurs. Et à la rigueur, on pourrait estimer qu'il est capable de proposer un programme municipal. Mais déjà encore, il serait teinté d'éléments locaux à chaque fois, et dans de très nombreuses grandes villes, il sera présent sur des listes de maires sortants. Quelques maires d'hiver gauche ou ex-socialistes et beaucoup de maires de droite. Donc synthétiser un programme me paraît assez compliqué.
Pascal Perrineau.
Oui, il y a de plus en plus, quand vous regardez le terrain, des programmes municipaux, quand ils existent.
Ouais.
Des projets municipaux, dirons-nous, qui sont relativement déconnectés des programmes nationaux de chacun des partis. Et encore plus, comme ça vient d'être dit, pour La République En Marche, qui est à la fois et de droite et de gauche, et là c'est une réalité, puisque parfois elle est associée à la droite, parfois elle est associée à la gauche, parfois elle est autonome, comme à Bordeaux. En fonction, vous voyez, des partenaires, du rapport de force, de l'isolement ou de la collaboration, on aura affaire certainement à des axes programmatiques au plan municipal qui seront différents pour les candidats de La République En Marche.
Je voudrais juste rajouter, ce qu'on voit sur le terrain, c'est un Stanislas Guérini, le patron du parti, qui depuis quelques semaines se dépêche de faire un tour de France très court, il n'y a que 6 villes qui ont été visitées, pour essayer de se dépêcher de préparer un programme municipal pour qu'il soit prêt en gros au 1er janvier. Donc on sent que ce parti, en fait, voilà, il n'est pas installé, quoi. Il court tout le temps, il n'est jamais en place. Alors il faut se souvenir quand même que le démarrage a été extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron élu président avec 6 mois de, entre guillemets, latence, c'est-à-dire là, on se contrefiche de ce qui s'y passe, on installe un triumvirat, il ne s'y passe rien, et puis on installe quelqu'un qui n'a pas du tout envie de devenir le patron de ce parti, on a peut-être oublié, mais c'est Christophe Castaner. Ou globalement, voilà, moi qui couvre cette partie, ce parti-là, il s'y passera rien. Voilà, c'est le calme plat. Et arrive Stanislas Guérini. Je rappelle que Stanislas Guérini, donc le nouveau patron, est arrivé le 1er décembre, c'est-à-dire il y a moins d'un an. Donc en moins d'un an, on peut pas avoir un programme municipal, trouver 1200 comme ils l'espéraient. Ils en sont très 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 loin. 1200 candidats à investir. Enfin, je veux dire, ils sont sous l'eau en fait. Ils n'y arrivent pas.
Tout à l'heure, on a François, notre auditeur, qui nous parlait de climat et d'élections, de climat social en ce moment. Je voudrais qu'on écoute Georges, qui nous appelle de Bretagne. Bonsoir, Georges.
Bonsoir.
On vous écoute, Georges.
Je voudrais dire que, en tant que gilet jaune, les élections municipales vont pour nous un test. Parce que si les gilets jaunes ont été apolitiques pour certains, ils sont pas apartisans. Donc, ils vont essayer de prendre parti contre les gens qui auront l'étiquette macroniste. À Vannes, il y a M. Lemaire, qui est le doyen d'université de droit de Vannes, donc on va essayer de le faire battre. Et à Auray, il y a donc M. Lassalle qui est assureur. Donc on va mettre tout en œuvre pour les faire battre. Et ce sera notre victoire. S'il n'y a pas de victoire au niveau PS et Républicain, il y aura la victoire des Gilets jaunes qui ont été donc amputés, éborgnés, frappés. Donc on va essayer, nous, de rentrer dans le combat des municipales pour jouer notre rôle. Parce que ce que M. Macron a oublié, c'est qu'on a un bulletin de vote. Et notre bulletin de vote, il va valoir très cher. On va défendre notre bulletin de vote et nos idées. On va y mettre tout notre cœur et notre envie de lutter contre l'injustice sociale. Ce sera notre bulletin de vote.
Merci beaucoup, Georges, pour votre appel. Moi, je trouve ça très intéressant, l'appel de Georges. Les gilets jaunes sont nés sur les ronds-points. Alors, pour le coup, s'il y a bien un mouvement municipal, c'est bien le mouvement des gilets jaunes. Est-ce qu'on sait, Pascal Perrineau, jusqu'à quel point il pèse, effectivement? Là, en l'occurrence, pour ce qui est de Georges, il pèse contre Emmanuel Macron. Est-ce qu'on sait jusqu'à quel point il pèse? Je me souviens des élections européennes où les votes n'ont pas été ceux qu'on avait imaginés. Il n'y a même finalement pas eu tant de votes que ça. Qu'est-ce que ça dit pour les municipales?
Alors, deux remarques. Quand on regarde en effet la séquence mobilisation des Gilets jaunes, élections européennes quelques mois plus tard. Le fait d'avoir participé, comme notre auditeur, au mouvement Gilets jaunes amène une participation plus élevée que la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a eu une politisation, au sens électoral du terme, au travers de la mobilisation des Gilets jaunes. Des gens qui étaient s'intéressaient pas beaucoup à la chose politique se sont mis à s'intéresser à la chose politique. Ensuite, en termes d'orientation, on a pu avoir des surprises. La liste aux européennes qui a le plus profité du vote gilet jaune est de manière très claire la liste du Rassemblement national. Loin derrière la liste de la France insoumise. 44% à peu près des gens qui se sentaient proches des gilets jaunes et qui sont allés voter ont voté en faveur de la liste du Rassemblement national. 12%, c'est les statistiques de l'IFOP, en faveur de la liste de la France insoumise. Donc on voit bien que les listes protestataires, et on sent bien dans ce qui vient d'être dit, le vote sanction, qui très souvent d'ailleurs est important aux élections municipales. On dit très souvent les élections municipales, ce sont des élections intermédiaires entre deux élections nationales, dans lesquelles on enregistre une sous-mobilisation de l'électorat de la majorité et une surmobilisation des électorats majoritaires et l'expression d'un vote sanction. Et on verra, il sera intéressant de voir, mais ça sera difficile à mesurer, lorsqu'il y a une visibilité de La République En Marche, est-ce que véritablement le vote sanction fait mettre un genou à terre au candidat de La République En Marche.
Stéphane Zumsteig, l'avis du sondeur là-dessus. D'abord, est-ce qu'on peut vraiment discuter municipal en se souvenant de ce qui s'est passé aux européennes? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment une similitude? Ça peut paraître compliqué, on verra bien.
Oui, mais... je pense pas qu'on puisse le comparer, parce que là encore, lors des européennes, l'offre politique proposée était quasiment exhaustive. Toutes les forces politiques, ou presque, étaient présentes avec chacun sa liste. Mais pour reprendre ce que disait votre auditeur à la fin de son intervention, il disait « notre bulletin va coûter cher », dans certains cas peut-être, mais je crains un peu que ce ne soit pas forcément le cas. Faut pas oublier une chose, les gilets jaunes sont aussi historiquement, traditionnellement, sociologiquement des abstentionnistes, vous le rappeliez. C'est des gens qui ont du mal, quelque part, à intégrer le jeu politique, le jeu démocratique. Parce que des élections, et des élections municipales comme les autres, c'est pas un référendum. On vote pas pour Macron ou contre Macron. Si on veut sanctionner Macron, faut-il faire le choix ensuite d'une liste. Et ça, c'est ce palier que certains gilets jaunes ont du mal à franchir, parce que ils ne se retrouvent pas dans l'offre politique qui leur est proposée, même si c'est vrai, vous le disiez, le Rassemblement National en a tiré quelques bénéfices, mais enfin, ça n'a pas non plus été une victoire éclatante pour la liste de Jordan Bardella. Donc moi, je suis assez sceptique là-dessus. Ces gens-là sont dégoûtés de la vie politique, en supposant qu'ils s'y soient intéressés un jour, et ont du mal ensuite à traduire leur énervement, leur hostilité, leur agressivité parfois dans les urnes.
Karine Bécard, est-ce qu'on sait déjà, puisqu'on est en train de parler de Rassemblement National, est-ce qu'on discute déjà, est-ce qu'on sait déjà ce qui se passera s'il faut faire barrage au Rassemblement National, qui sacrifiera quoi? Qu'est-ce que dit la République En Marche là-dessus?
La République En Marche là-dessus est très claire, et pour le coup, depuis le début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un risque pour qu'une liste l'emporte au Rassemblement National, systématiquement la République En Marche est prête à se retirer. Ça, c'est quelque chose de très clair. Alors, c'est ce qui explique, par exemple, ce qu'ils veulent faire à Nice, c'est quand même un peu compliqué, mais ils veulent soutenir absolument Christian Estrosi, enfin normalement, parce qu'effectivement il y a un risque RN assez important. Bon, maintenant, ça risque d'être un peu géré comme à Toulouse, donc de manière compliquée, c'est-à-dire qu'à la fois, on va avoir une liste et un maire sortant, soutenu par les Républicains et par La République En Marche, ce qui rend pas forcément les choses très lisibles et très claires à la fin.
On me dit que Sylvain s'impatiente au standard, il a raison, ça fait 15 minutes 23 que vous attendez, pardon Sylvain, on vous écoute, allez-y
oui,
Sylvain.
Bonsoir à tous, et encore une fois, Fabienne Sintès, bravo pour vos débuts de soirée avec nous. Je voulais juste apporter un témoignage sur ce qui s'est passé il y a quelques jours au conseil municipal de Lyon, enfin du moins avant le conseil municipal, où deux membres de deux listes, une pour Collomb et l'autre pour Kimfeld, se sont étripés à l'intérieur même de l'hôtel de ville. Et avant de conquérir même les petites communes, je ne sais pas comment LREM va pouvoir stabiliser une situation qui pour nous Lyonnais est complètement incroyable, sachant que Lyon, semble-t-il, est une ville qui a toujours soutenu LREM dans les premiers temps. Et on a vécu vraiment quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Et je m'intéresse beaucoup à la politique et j'avais jamais vu deux élus comme ça s'étriper devant des caméras. Enfin, c'était complètement incroyable, quoi.
Merci pour votre appel, Sylvain. Là aussi, on parlait de Bordeaux tout à l'heure. Là aussi, on est dans une espèce de cas d'école un peu fou, non, Stéphane Zumsteig, quand on parle de Lyon. Et il a raison, notre auditeur, qui était La République En Marche avant même que La République En Marche n'existe, au fond. C'est ce qu'on se disait.
Ah, c'est le premier des macronistes. Voilà. Je veux dire, il était macroniste
d'une certaine façon. Avant de savoir que le macroniste existait, Stéphane Zumsteig.
Mais d'ailleurs, la situation à Lyon en dit long sur l'évolution de ce qu'on appelait autrefois l'intercommunalité. On va probablement beaucoup plus parler des élections du Grand Lyon, de la métropole, que des. Ouais. Parce que les pouvoirs dont dispose son président, son actuel et son futur président, sont évidemment immensément incomparablement plus important que ce dont dispose le maire de Lyon. C'est une situation inédite parce que pour le coup, au Grand Lyon, c'est l'actuel président qui va affronter l'ancien président, Gérard Collomb, tous les deux issus de la REM, et on parlera beaucoup moins, je pense, des élections de la ville de Lyon.
Voilà, c'est important, effectivement, il faut être très très clair, Gérard Collomb, c'est pas la ville de Lyon là, qui l'intéresse, et pour l'instant, il est le maire de Lyon, ce qu'il veut, c'est la métropole, et la métropole, l'affaire est quand même assez compliquée, parce que, je sais plus combien de communes précisément, mais une petite cinquantaine, je crois, et ça penche terriblement à droite, donc il faut réussir à être majoritaire parmi tous les maires qui vont être élus précédemment, enfin, donc c'est vraiment une élection en deux temps, et l'affaire va être assez compliquée malgré tout pour Gérard Collomb, c'est dans sa ville où tout se passe bien. C'est dans sa ville où, effectivement, il a des sondages très flatteurs pour l'instant.
Et puis, on voit que La République En Marche n'est pas à l'abri de conflits internes sévères. C'est sensible, en effet, dans la communauté lyonnaise. C'est
et les
sensible.
Montres, surtout. Parce voilà. que Kylian est-tu sûrement, mais les montres.
C'est sensible à Paris, oui, c'est sensible à Lille. Au fond, il n'y a rien de pire que les conflits fratricides. Il n'y a rien de pire, Freud le disait déjà, que la haine des petites différences. Eh bien, on a là l'exemple même de cette difficulté à gérer ces toutes petites différences. Parce qu'on aimerait savoir ce qui sépare profondément en matière de politique municipale, M. Kimmelfeld, de M. Collomb, M. Villani, de M. Griveaux.
Est-ce que c'est pas, Karine Bécart, c'est inhérent aussi à un parti qui est en train de grandir et qui est en train d'essayer de se monter aussi
Alors ça, effectivement, moi, ça va avec, hein. Moi, ce que je subodore quand même beaucoup, surtout quand on parle de Griveaux et de Villani, mais c'est le cas aussi, je pense, quand même pour Kimmelfeld, c'est, souvenons-nous, comment a été élu Emmanuel Macron au départ. Emmanuel Macron, c'est le disruptif, celui qui ose, celui qui enjambe tout, qui se permet tout.
Donc pourquoi pas moi ? C'est ça
exactement,
que vous dites en fait.
Aujourd'hui, tous ont ça au fond d'eux. C'est-à-dire que finalement, pour réussir, c'est au contraire, et pour même se faire remarquer par ce président, c'est être capable de faire la même chose que lui, que ce qu'il a fait. Donc ça, c'est un moteur énorme.
Stéphane Zumsteg, là-dessus, je vous voyais prendre des notes. Du coup, je me demandais si vous vouliez intervenir sur ce plan-là, cette division qu'on commence à percevoir et à voir dans beaucoup d'équipes de La République En Marche.
Oui, la petite nouveauté, c'est aussi que, c'est quand même que La République En Marche n'exclut pas les dissidents.
Pas toujours.
Pas toujours.
Enfin, c'est le candidat qui décide s'il veut que son dissident disparaisse ou pas.
Mais Cédric Villani, par exemple, n'a pas...
Parce que Benjamin Griveaux ne l'a pas souhaité. C'est la version officielle.
Ou Emmanuel Macron.
Et pour arriver à quoi, au bout du bout, en fait, qu'est-ce que... Pardon, mais de dire comme ça, en quoi ça l'arrange, Benjamin Griveaux, que Cédric Villani soit toujours là et inversement, au fond?
Il est probable que si Villani vous l'excluez de La République En Marche, de toute façon le candidat continue à exister. Donc sans doute que ça pose toujours autant de problèmes en réalité, et en tout cas ça les solde pas. Il sera toujours là, il sera toujours dans le jeu. Donc autant espérer à un moment donné qu'il fléchisse, ce que je ne pense pas qu'il fera, et qu'il revienne effectivement à la raison et qu'il revienne chez Benjamin Griveaux, mais ça devrait a priori pas se passer comme ça.
Il faut pas oublier qu'il peut y avoir, et il y aura très souvent un second tour. Et qu'à partir du moment où vous atteignez la barre de 10% des suffrages exprimés, vous pouvez fusionner. Donc autant préparer une fusion tranquille entre les deux tours.
Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup de prendre mon appel. Et donc, je vais sacrifier à l'idée de vous dire que toutes vos émissions sont superbes. Donc merci encore.
Sacrifier, vous en priez.
Donc, alors moi j'interviens, donc j'habite à Toulouse et je disais tout à l'heure au téléphone à mes premiers interlocuteurs que il y a un paradoxe à Toulouse. Il a été souligné par tout à l'heure par une intervenante dans votre studio. Mais ce paradoxe-là, à mon avis, il souligne l'opportunisme. Du candidat et l'opportunisme qui doit exister dans notre ville, c'est-à-dire des personnes qui se présentent à Toulouse avec l'étiquette LR et qui sont soutenues ensuite par La République En Marche. Donc en fait, de manière ironique, je me dis qu'est-ce qu'on va faire au final ? On va mettre 50% pour l'un et 50% pour l'autre ? Donc voilà, je sais pas trop. Pour les partis, vous l'avez bien compris, je ne parle pas des candidats. Voilà, donc c'est un peu paradoxal et j'avoue que de nombreux électeurs toulousains s'interrogent un petit peu sur la vraie utilité de faire cette double étiquette. Voilà. Merci beaucoup.
Merci Jean-Marc pour votre intervention, Pascal Perrineau. On peut comprendre le côté un peu perdu de l'électeur Jean-Marc et d'autres à Toulouse et ailleurs d'ailleurs.
Bien sûr, les repères politiques habituels seront très difficiles à saisir et pas simplement à Toulouse. D'ailleurs, pour nous analystes, observateurs, le soir du premier tour, je vais vous dire, ça ne sera pas évident à commenter et de savoir si la gauche résiste, si LR maintient sa victoire municipale des dernières élections, et si La République En Marche arrive à se faire une petite niche. Ça sera extrêmement difficile, mais il faut pas oublier, si vous voulez, que quand on regarde sur le long terme les élections municipales, elles ont toujours eu une dimension de rassemblement des différentes sensibilités au-delà des étiquettes partisanes. Même dans certaines grandes villes, par exemple comme Marseille, pendant très longtemps, ont pratiqué avec Gaston Defferre, qui était pourtant un leader de gauche, une municipalité de troisième force. Monsieur Gaudin était conseiller municipal de Gaston Defferre. Donc, que au fond cela ressurgisse aujourd'hui n'est pas tellement étonnant.
A-t-on des exemples, nous demande Marie-Noël qui est sur franceinter.fr, a-t-on des exemples précis d'alliances de La République En Marche avec des candidats de gauche en vue de ces municipales?
Oui, tout à fait.
Oui, il y en a.
Oui, par exemple, dans le chef-lieu de Lyon, à Auxerre, monsieur Guy Ferrez, candidat de gauche sortant, va inclure dans sa liste des représentants de La République En Marche. Il va faire une liste d'union extrêmement, extrêmement large.
Après, il y a quand même des choses extraordinaires. Ce qui se passe, c'est par exemple à Saumur, La République En Marche décide de soutenir de son propre chef le candidat sortant, qui est un socialiste, qui a l'habitude, en tout cas, de travailler avec les écolos, le PC, enfin de faire une alliance assez large. Et il avait rien demandé, mais le fait qu'il soit soutenu, les écolos s'en vont, le PC ne veut pas être soutenu par cette. Donc, et en fait, La République En Marche a fichu un énorme bazar pour ce maire sortant.
Donc, elle l'a siphonné en quelque sorte.
Donc, des fois, ça marche pas très bien, en tout cas.
Véronique sur franceinter.fr nous dit « Je voudrais revenir sur un point abordé par la première intervention d'auditeur. L'enjeu n'est-il pas de recueillir assez de grands électeurs au sein des conseils municipaux pour peser sur la composition du Sénat, bien plus que pour diriger des villes ou porter un programme, Karine Bécard ?»
Alors ça, c'est le pareil, ça c'est la grande chose qui nous a été vendue par La République En Marche. Maintenant, quand on interroge par exemple des conseillers à l'Élysée et qu'on essaie de leur demander un peu précisément combien de grands électeurs tout ça pourrait faire et donc combien potentiellement de sénateurs on pourrait obtenir, ils sont incapables de vous donner le moindre chiffre. Voilà, je veux dire, le mode des grands électeurs, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Alors effectivement, par exemple à Toulouse, puisqu'on vient d'avoir un auditeur de Toulouse, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une grande ville, il y a un certain nombre de grands électeurs à prendre, donc là effectivement, potentiellement ça peut être intéressant et ça peut être comptabilisé. Mais pour l'instant, c'est quand même à vue de nez. Quoi.
Enfin, c'est du vue de pif, mais stratégiquement, c'est intéressant, non quand
Oui,
même,
mais il faut se donner les moyens de peser. Or, si vous voulez, je crois que La République En Marche se souvient de sa première humiliation, qui à l'époque était passée presque inaperçue, ce sont les sénatoriales de septembre 2017. Le président est élu, il n'est pas encore impopulaire, La République En Marche se dit « mais le Sénat, vous allez voir, on va avoir un groupe énorme », et ils se prennent une claque magistrale. Et ça, ils ne l'ont pas oublié. Et ils s'aperçoivent que la disruption, ça suffit pas de la faire en haut, il faut la faire en bas. Alors là, en effet, ils comptent sur les électeurs sénatoriaux. Il faut savoir que les électeurs sénatoriaux, je parle de mémoire, ils doivent être environ 160 000,
c'est à peu près.
Vous comprenez, s'ils font élire déjà 10 000 conseillers municipaux, imaginons que il y en ait le tiers ou la moitié qui soient des grands électeurs pour le Sénat, ça fait 5 000, mettons, au maximum. 5 000 sur un corps électoral de 160 000, c'est pas avec ça qu'ils vont perturber les équilibres du Sénat.
Gabriel, bonsoir.
Bonsoir, bravo pour vos émissions, Fabienne Saintès.
Bah, je vous en prie, Gabriel. Allez-y, on est content de vous avoir.
Est-ce qu'on a une idée du taux d'abstention dans les municipales? Alors, je suis sûr, d'ailleurs, que les gens présents ont une idée précise.
Forcément, Stéphane Zubstek peut répondre à cette question extrêmement précisément. Merci beaucoup, Gabriel.
Très précisément.
Le taux d'abstention dit quoi?
Commune par commune.
Ouais. 36 000.
Merci pour cette question. Traditionnellement, les Français votent massivement à l'élection présidentielle. Ouais. Et après, les taux d'abstention sont plus élevés selon les différents scrutins. Le maximum étant évidemment les élections européennes. Sur les municipales, ça dépend quand même de l'enjeu, ça dépend surtout de la taille de la commune. Si vous êtes dans une commune de 500 ou de 800 habitants et ne se présente avec le système du panachage et ne se présente que quelques personnes, il y a toute une partie des gens qui ne votent pas parce que ça ne sert à rien, y compris quand on apprécie des candidats. Maintenant, si l'on prend les grandes villes, tout ça dépend, mais le taux d'abstention, il peut être de 40 ou de 50% selon les cas. Donc il peut être important aussi.
Et est-ce qu'il est très variable d'une élection municipale à une autre élection municipale? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, la municipale a eu plus le vent en poupe qu'aujourd'hui et inversement?
Ça dépend du contexte national. Si qu'il y a véritablement une envie de sanctionner ou de soutenir le pouvoir en place? Évidemment, il y a davantage, notamment dans le cas du vote sanction, puisqu'il s'agit d'élections intermédiaires qui, traditionnellement, ne sont pas favorables au pouvoir en place. Plus de Français se mobilisent, se déplacent, mais la plupart du temps pour voter contre le gouvernement.
Gabriel, pardon, je sais que vous aviez une deuxième partie de question et je vous ai interrompu au milieu, mais je vous en prie, allez-y.
En partie, ça y répond, c'est-à-dire que voilà, moi si je me retrouve avec des gens qui se sont accoquinés avec En Marche, je vais même pas voter, c'est pas la peine.
Eh bien écoutez, voilà. Ce sera votre choix.
Oui, mais vous aurez rarement dans une commune uniquement une liste En Marche, donc alors, vous aurez
tout dépend de la taille de la commune, évidemment,
à voter pour d'autres listes.
Non mais c'est intéressant quand même, je reviens sur ce qui se passe à Toulouse, pardonnez-moi, mais je trouve ça intéressant d'entendre que finalement, d'accepter à la fois le soutien des Républicains et le soutien de La République En Marche auprès d'un certain nombre d'électeurs, ça passe pas forcément, et je sais pas si ces maires sortants ont véritablement mesuré cette question-là en particulier.
Oui, ils l'ont certainement pas mesuré parce qu'on sort tout de même de plusieurs décennies où l'offre politique, du moins dans les grandes villes, ressemblait furieusement à l'offre politique nationale. Là, comme nous le disions au début, on est en train d'en sortir, de revenir à une période qui était plus celle de la 4e République ou des débuts de la 5e, où les élections municipales n'étaient pas en phase avec le système politique national, où par exemple les socialistes commençaient à rentrer dans une formule d'union de la gauche, mais sur le terrain, ils étaient associés avec des centristes.
Question courte, réponse courte. La première nous vient de Hugues sur franceinter.fr qui demande si chez les marcheuses et marcheurs, il y a une parité homme-femme prévue dans les listes et têtes de liste. J'ai envie de dire évidemment.
Alors évidemment, non, ça a été très très compliqué. Au début, ils ont investi quasiment que des hommes. Donc il a fallu très sérieusement revoir les choses voilà, très très vite. Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout à parité. Ils ont tout de même réussi à investir à peu près 30% pour l'instant de femmes. Voilà. Mais alors par contre, ce qui est vrai, souvent dans des très grandes villes. C'est le cas par exemple à Rennes, c'est le cas à Lille, c'est le cas vraiment
souvent dans les très grandes villes. On a réussi à investir des femmes ou au contraire ça a été plus compliqué?
Non, il y a peu de femmes, enfin, il n'y en a que 30%, d'accord, mais souvent dans des grandes villes, d'accord, en revanche.
Est-ce que on a vu, ou pas du tout, justement, j'en parlais tout à l'heure en introduction, il y a eu une espèce de montée après l'élection présidentielle de néo-candidats qui voulaient devenir députés. Alors on verra bien d'ailleurs aux prochaines élections si sous cela veulent retourner à la vie civile, mais est-ce que c'est totalement absent de ces élections municipales vouloir être un nouveau maire et se lancer avec l'étiquette de La République En Marche, réellement? Je ne sais pas à qui je peux demander
si
ça, pardon de vous piéger.
La fonction de maire, moi je le vois en discutant avec pas mal de députés, est une fonction qui a plus de sens aujourd'hui, pour beaucoup d'élus, que la fonction de député. Hein. Donc pas mal de députés veulent se mettre, en effet, même parmi les députés néophytes, on le voit, ils le font parfois avec un peu de maladresse sur la scène politique locale, envie d'embrasser plutôt une carrière d'élu local, parce que quelque part c'est plus gratifiant, et puis au moins on a l'impression de servir à quelque chose.
Pourtant, ils sont qu'une vingtaine quand même, il n'y a qu'une vingtaine de députés de La République En Marche qui effectivement franchit le Rubicon. Et alors j'ai un peu l'impression à l'inverse, c'est-à-dire que ces marcheurs étaient complètement bluffé par l'institution, l'Assemblée, beaucoup moins par maire, qui est quand même un mandat très très prenant.
Et quand vous êtes membre d'un groupe parlementaire qui fait 300 députés, et que si vous n'êtes pas un des porte-parole ou une des vedettes de ce groupe, vous ne pesez pas grand-chose et vous vous ennuyez très vite.
Et c'est peut-être ce que certains ont constaté, effectivement. Merci beaucoup, merci à tous de votre participation, merci de vos très nombreux appels, comme d'habitude, et portez-vous bien.